Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
C'est une histoire où la passion se cogne contre la falaise de la raison d'État, où la fidélité amoureuse se brise contre le mur de la loyauté vis-à-vis de la patrie, et où le hasard vient mettre son grain de sel au fil du temps en semant des petites graines de troubles dont il est friand. Mais vous le savez, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Attention, avis de grand suspense orchestré via une hôtesse de l'air tombée du ciel dans la jungle, un amour d'adolescence omniprésent, un ermite à plusieurs vies et des pygmées. Histoire de brouiller les pistes, un tigre, un ambassadeur, une séance d'aruspicine viendront compléter le tableau. Alors méfiez-vous, Gérard Muller va tenter de vous convaincre que des forces obscures ont élaboré le scénario de son roman « Tous les chemins de vie descendent du ciel » paru en 2023 aux éditions Le Lys Bleu. Bonjour Gérard Muller.
Bonjour Philippe.
Bienvenue dans Parole d'auteur. Je salue nos fidèles auditeurs et je leur indique à nouveau que cette émission sera consultable sur les podcasts sur toutes les grandes plateformes numériques. Première question, Gérard Muller, êtes-vous vraiment certain que tous les chemins de vie descendent du ciel ?
Ben oui, oui, forcément. Hein. En plus, je suis dans une radio à tendance chrétienne, donc je pense que je suis en totale harmonie avec l'existence de cette radio.
Voilà, nous allons essayer de le vérifier au cours de cette émission. Alors, je rappelle pour nos auditeurs qu'ils vous connaissent un peu mieux, mais comme vous êtes déjà venu par deux fois à Radio Présence, ils doivent déjà un peu vous connaître. Alors, je rappelle que vous êtes un ancien ingénieur de l'industrie spatiale, que vous avez deux passions qui sont l'écriture de romans et le golf.
Oui.
Voilà. Vous pouvez nous donner votre handicap ?
Alors, mon meilleur a été 8, mais là, comme je vieillis pas mal, je régresse, je suis dans les 20 maintenant, en ce moment.
Voilà. Bon, ça peut toujours reprendre.
Oui.
Vous exercez par ailleurs, je crois, je ne sais pas si c'est toujours le cas, des activités de consultant.
Oui, je suis toujours consultant dans l'industrie spatiale, notamment pour une start-up et des PME qui travaillent sur les satellites.
Sur les satellites. Alors, vous êtes une personne très polyvalente. Vous êtes, on peut dire que vous êtes romancier, novelliste, poète. Et j'ai cru comprendre que vous aviez fait la démarche de vous adjoindre les services d'un coach pour apprendre à écrire, entre guillemets.
Tout à fait, parce que j'ai toujours voulu écrire. Moi, lorsque je travaillais 24 heures sur 24, presque... j'avais pas le temps d'écrire, mais j'écrivais des petits trucs. Puis je me suis dit, tiens, c'est pas trop mal. Et je me suis toujours dit, quand tu seras à la retraite, tu écriras. Et quand je suis parti à la retraite, j'ai voulu écrire. Mais en bon ingénieur, je me suis posé la question, mais sais-tu écrire ? Et en fait, là, le hasard a fait que j'ai rencontré un coach formidable qui m'a accompagné sur mon premier roman et qui m'a à peu près tout appris de l'art de l'écriture, parce que finalement... L'écriture romanesque, ça s'apprend, contrairement à ce qu'on pense, enfin ce qu'on pense en France. Hein. Par contre, dans les pays anglo-saxons, comme les États-Unis ou l'Angleterre, tous les écrivains sont passés par des ateliers de creative writing, comme on dit, d'écriture créative. Hein. Et à mon avis, c'est un passage obligé, sauf si on est un génie, comme Houellebecq ou comme Victor Hugo, mais bon... Il y en a peu.
Voilà, ce qui peut arriver, mais effectivement rarement. Alors, dans cette démarche, vous avez un petit peu persisté au-delà, puisque je comprends que vous animez un atelier littéraire, justement, pour coacher les jeunes auteurs.
Exact, oui. J'appartiens à une association qui s'appelle l'association Philémon à Toulouse, qui est sponsorisée par la mairie de Toulouse, et dans laquelle j'anime deux ateliers littéraires, où je coach des jeunes auteurs, jeunes entre guillemets, ils peuvent être assez âgés, mais jeunes dans l'écriture, jusqu'à l'édition de leur premier roman. Sur un cursus de 3 ans, la première année, on apprend à écrire, justement. La deuxième année, on se lance dans les nouvelles. Et la troisième année, je les accompagne dans leur roman. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai une trentaine d'élèves, entre guillemets, qui ont publié leur premier roman, parce que c'est pas tout d'écrire, après il faut le publier. Et comme je connais un petit peu les affres de l'édition, je peux les guider dans ce monde qui n'est pas si merveilleux que ça, de l'édition.
Alors vous êtes par ailleurs membre de la Société des poètes et artistes de France, vous faites partie de l'Académie des livres de Toulouse, et vous êtes aussi directeur de collection.
Oui, alors dans une maison d'édition qui est Albi, qui s'appelle Un autre regard, où j'ai publié que trois livres chez eux, trois romans d'ailleurs, mais où le patron m'a fait l'honneur d'être directeur de sa collection romans. Bon, il publie 4 ou 5 romans par an, et j'accompagne dans cette démarche, c'est-à-dire qu'il me soumet des manuscrits, enfin il les sélectionne d'abord, il me les soumet, et moi j'accompagne un petit peu l'auteur pour faire quelque chose de publiable.
Voilà. Alors finalement vous êtes rentré dans ce monde relativement tard, mais quel palmarès !
Ah oui, mais moi quand je m'investis dans quelque chose, je vais à fond. Hein.
Alors je précise à nos auditeurs que vous avez obtenu de nombreux prix de poésie et des prix littéraires. En ce qui concerne votre bibliographie, alors la bibliographie, on ne peut plus varier, étendue, romans classiques, policiers, thrillers, fantastiques, romans d'anticipation, romans d'espionnage, poèmes, nouvelles, théâtre. J'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que vous n'avez pas écrit
hein? Alors, je n'ai pas écrit des romans historiques, je n'ai pas écrit des biographies et je n'ai pas écrit de l'histoire.
Bon, il vous reste un peu de travail donc.
Non, mais moi ce qui m'intéresse, c'est la fiction. C'est la fiction pure, comme j'ai travaillé tout... Je n'ai pas écrit la science-fiction. Parce que c'est trop proche de mon travail. Hein. Les satellites, science-fiction, c'est un peu la même chose. Pas tout à fait, mais presque. Hein. Donc, j'écris que de la fiction, mais pas de la science-fiction, et pas des biographies, pas des choses qui ont existé, qui se sont passées.
Je voudrais préciser aussi aux auditeurs que vous avez écrit deux séries, je crois, de romans gastronomiques, on peut les qualifier comme ça. Donc, ils sont des romans policiers autour de la gastronomie, alliés à un plat.
Ma bibliographie, c'est effectivement, j'ai des romans de fiction, et j'ai aussi des polars. Dans le roman de fiction, je développe plutôt une histoire, la psychologie des personnages, etc. Je trouve que le polar, c'est aussi un bon moyen de parler d'autres choses. Parler d'un métier, par exemple, d'un sport, d'une activité quelconque, etc. Parce qu'on ne développe pas trop la psychologie des personnages, à moins que ce soit des romans, des thrillers très noirs, hein, mais on s'intéresse à autre chose. Et donc... comme je suis un fin gourmet, enfin je crois être un fin gourmet, j'ai fait une série gastronomique, du piment dans le foie gras, par exemple, je vous livre quelques titres, concerto gris pour une truffe noire, ascenseur pour une huître, la fondue avait un drôle de goût, la guerre du cassoulet. Et je viens de sortir la guerre du Roquefort, là, d'accord, qui est sortie la semaine dernière.
Ces titres-là, c'est un petit peu des titres à la Audiard, non ?
Tout à fait, hein ? Oui, j'aime bien ces titres. Et je pense que je ne suis pas trop mauvais sur les titres. Et ça fait une petite série où le plat devient un des personnages du roman. Et toute l'intrigue est basée autour du plat. C'est ça qui est intéressant. Et ça me permet par exemple de parler des métiers restaurateurs, ostréiculteurs, éleveurs de truffes ou producteurs de truffes, producteurs de foie gras, etc.
À aujourd'hui, vous avez publié combien d'ouvrages ?
Alors j'ai publié 70 livres.
Donc en combien de temps ?
En 12 ans, à peu près.
12 ans. Vous avez une cadence impressionnante.
Oui, alors d'abord, ce n'est pas des romans qui font 1000 pages, hein, déjà. Hein? Disons que... Mais j'ai la chance de pouvoir écrire assez vite et de pouvoir écrire quand je veux. C'est-à-dire que je ne suis pas un auteur qui a besoin d'organiser son cabinet de travail à heure fixe avec le stylo là, le verre d'eau là, etc. Moi, je m'assois quelque part, j'écris.
Alors, vous nous avez dit que vous avez commencé à la retraite. Alors, sans doute, vous aviez une envie au fond de vous. Et justement, cette envie, cette motivation, le fond du fond, c'est quoi pour vous, l'écriture ?
Alors, vaste question. Alors, j'ai eu la chance, en fait, je pense que tout vient de ma mère qui lisait beaucoup. Mes parents lisaient beaucoup, ma mère lisait beaucoup, hein, elle m'a donné le goût de la littérature. Et surtout, elle pouvait lire aussi bien du San Antonio que les grands classiques. Hein. Et elle était très éclectique, et je pense que dans mes lectures, je suis aussi très éclectique. C'est venu comme ça, donc je pense que ça a été ancré dans mes cellules dès mon plus jeune âge, quoi. Hein. Et je sais pas, c'est comme... C'est devenu un besoin. Expliquer pourquoi, c'est un peu difficile, mais c'est devenu un besoin. Presque vital.
Alors, j'ai lu quelque part que vous disiez qu'un écrivain, pour vous, c'était avant tout quelqu'un qui ose écrire.
Oui. Si on fréquente des ateliers littéraires, si vous voulez, la première chose, c'est de débloquer les gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent écrire, mais qui sont bloqués, qui n'y arrivent pas. Hein. Et donc, la première tâche dans un atelier littéraire, c'est justement de les bloquer. C'est-à-dire qu'on leur donne un thème. Et ils sont forcés d'écrire, c'est ce qu'on appelle l'écriture contrainte, c'est-à-dire qu'ils ont 20 minutes pour écrire un texte sur un sujet qu'on leur donne. Et ils sont contraints par le sujet et par le temps. Tant et si bien qu'ils sont obligés d'y aller. Et ce qui sort, c'est vraiment quelque chose d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps de se cacher derrière une réécriture, etc. Et ça, ça permet de débloquer. En quelques séances, on débloque complètement et la personne après peut se lâcher.
Voilà. C'est le système de ce qu'on appelle les ateliers d'écriture.
Exactement. Ah, oui.
D'accord. Et les gens réagissent facilement, je veux dire, sont entraînés par cette méthode.
Alors, dans l'atelier d'écriture, ce qui est difficile, c'est qu'on écrit de façon contrainte, mais par exemple, on est 5 ou 6 autour de la table, et chacun doit lire son texte après. Il y a 20 minutes d'écriture, et après, il y a l'institution de chacun. Et il y a pas mal de gens pour qui c'est difficile la première fois de lire le texte. Parce qu'en plus, ils ont mis d'eux-mêmes, quoi. Hein, parce que comme ils étaient contraints, ce qui est sorti, c'est vraiment leur personnalité ou leur vie, quoi. Hein, ou leur passé. Hein. Donc il y a des gens qui n'y arrivent pas, que leur faut quelques 4 ou 5 ateliers pour complètement commencer à accepter de lire son texte. Hein. Et puis il y a des gens qui n'y arrivent jamais. Qui sont dit « Non, c'est trop dur, moi je ne peux pas, je pars, ça arrive.
Hein. » Ça veut dire que c'est une épreuve, enfin c'est rédhibitoire s'ils ne réussissent pas cette épreuve, entre guillemets.
Oui, alors en plus, oui, moi j'ai je suis un tout petit peu provocateur dans ces cas-là, parce que par expérience, je sais que si la personne ne résiste pas à mes critiques, ils ont toujours argumenté, hein, non mais elle produit un texte, je dis voilà, ben là c'est bien, là ça va pas, il y a ça. Sans jamais attaquer la personne, hein. On n'attaque que le texte. Mais j'habite d'être un peu dur au début, parce que je sais par expérience que si elle se bloque, si elle n'accepte pas mes critiques, elle va pas progresser. Alors ça, il y a d'autres gens qui n'ont pas les mêmes méthodes que moi, mais c'est ma méthode.
Hein. D'accord,
il y a des gens qui ont des méthodes un peu plus douces.
Hein. D'accord. Donc vous êtes aguerri à suivre les gens qui sont candidats à la fonction d'écrivain. Alors revenons un petit peu à vos sujets de prédilection. Alors j'ai bien compris effectivement que vous avez baigné dans un milieu qui vous a orienté vers la littérature, qui vous l'a fait apprécier. Ensuite, vous avez des choses à dire, vous avez des sujets qui vous intéressent. En particulier, est-ce que vous pouvez nous donner un petit éventail de ces sujets?
D'accord. Alors les sujets qui m'intéressent apparaissent plutôt dans mes romans et pas dans mes polars. Mes polars, c'est toujours un métier, un sport, etc. Alors, dans les romans, je touche à pas mal de sujets. Par exemple, j'ai l'intelligence artificielle. L'apparition de la conscience dans l'intelligence artificielle. La génétique, par exemple, la vie éternelle. Hein? J'ai même parlé pour vos auditeurs... J'ai même imaginé que le Messie pouvait revenir sur la Terre, mais j'imaginais que cette fois, c'était une femme. Et j'ai fait un roman qui explique ça, enfin qui décrit cela, est-ce qu'elle fait des miracles, qu'est-ce qu'elle va dire, etc. Hein? Mais je peux parler aussi d'espionnage, de voyage en Afrique, d'humanitaire en Afrique, par exemple. J'ai fait un roman écologique aussi qui se passe en Australie, dans la plus vieille forêt du monde. qui est la forêt de Daintree en Australie, hein, qui est une forêt qui a 150 millions d'années. Imaginez, c'est vrai. Donc elle a survécu à la dérive des continents, elle a survécu aussi à l'extinction des dinosaures. Et on sait qu'elle a 150 millions d'années, donc j'ai imaginé qu'elle avait, de fait de son passé, un message à donner à l'humanité. Et donc j'ai essayé d'imaginer le message qu'elle pouvait donner. Et la première difficulté étant d'entrer en contact avec cette forêt. Comprendre ce qu'elle dit, comment trouver un moyen pour entendre ce qu'elle dit. Et donc là, c'est un scientifique, un Français d'ailleurs, spécialiste du codage, qui va en Australie avec l'aide d'un arborigène, va décoder les messages de la forêt. Sachant que les aborigènes parlent avec les forêts depuis longtemps. Hein.
Alors, nous allons y revenir en détail, parce qu'il y a un rapport avec le présent roman. Je rappelle à nos auditeurs que Gérard Müller était déjà venu présenter le livre auquel il fait allusion, oui, qui s'appelle Daintree, sous-titré La forêt intelligente, il y a quelque temps, dont je vous recommande la lecture, et dont vous allez pouvoir constater qu'il y a des rapports avec le roman d'aujourd'hui. Gérard Müller, vous nous avez présenté cette fin d'écrire comme quelque chose de profond. J'ai cru comprendre que souvent vous aviez déclaré que vous aviez du temps à rattraper dans ce domaine, donc c'est ce qui expliquait un petit peu votre démarche. Et vous avez dit tout à l'heure que vous pouviez vous mettre à écrire sans préparation préalable, c'est-à-dire que vous n'avez jamais été dans la situation d'être face à la panne de la page blanche.
Non, alors, ce qui se passe, si vous voulez, notamment dans les polars. Les polars, quand j'écris un polar, je ne sais pas où je vais. C'est-à-dire, je me donne un personnage, je me donne un lieu et une situation de départ. Mais je ne sais pas du tout, je ne connais pas l'intrigue, je découvre l'intrigue et les autres personnages au fil de l'écriture.
Ah, d'accord.
Comme disait Malraux, je suis le premier lecteur de mes romans. Et il m'arrive au milieu du roman d'être bloqué. Mais parce que je ne sais pas comment continuer. Okay. Dans ce cas-là, j'ai un remède infaillible. Je prends mon vélo, je fais une heure de vélo, et je sais que 9 fois sur 10, au bout de 3 quarts d'heure, sans avoir réfléchi à l'intrigue, j'ai la solution. Et là, je trouve la solution de l'intrigue. Et donc, c'est pas la page blanche, mais c'est le blocage.
Hein. Et est-ce qu'on peut en conclure que vous écrivez sur le vélo ?
Non, c'est mon subconscient qui écrit. C'est-à-dire que moi, je pédale, je regarde le paysage, je pense à des tas de choses, et mon subconscient travaille, et au bout de 3 quarts d'heure, il me donne la solution. Mais c'est la même. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Hein. Dans votre travail, il peut vous arriver de faire la même chose. Hein.
C'est peut-être un des premiers conseils que vous donnez aux gens que vous suivez, que vous
coachez. Oui, s'arrêter, prendre du recul. Il m'arrive des fois de lâcher un roman pendant 2 mois. Celui-là, d'ailleurs, celui qu'on nous parle aujourd'hui, j'ai lâché pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, j'ai trouvé la solution pour rebondir. Et dans mon atelier, il arrive que un de mes élèves soit bloqué aussi. À ce moment-là, on fait un brainstorming. C'est-à-dire qu'on se met tous autour de la table. Voilà, explique-nous où tu en es, qu'est-ce qui se passe, etc. Et on l'aide à aller au-delà, à trouver la solution, à lui proposer des pistes, etc. Après, c'est à lui de choisir. Hein.
Donc finalement, chacun son chemin. Et à propos de chemin de vie, nous allons écouter le chemin de Georges Moustaki avec le Métèque.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux 4 vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Un extrait de la chanson Le Métèque de Georges Moustaki, choisi par Gérard Muller, en liaison avec l'intégralité de son œuvre ou plus en liaison avec le roman d'aujourd'hui?
Non, en liaison un petit peu avec ma vie, parce que j'étais un métèque. J'ai eu mon bac en 68, j'ai beaucoup voyagé, j'étais un peu hippie à l'époque. Je suis allé jusqu'en Afghanistan, etc. J'ai traversé le Sahara, j'ai fait pas mal de choses. Et puis en relation aussi avec le bouquin, parce que le personnage masculin principal est aussi un métèque.
Voilà. Donc on va y venir. Je vous rappelle, chers auditeurs, que nous sommes en compagnie de Gérard Muller pour son ouvrage « Tous les chemins de vie descendent du ciel », paru en 2023 aux éditions Le Lys Bleu. Alors Gérard Muller, ce livre débute par un épigraphe. Nous sommes libérés de ce que nous acceptons, mais nous sommes prisonniers de ce que nous refusons. Ça aussi, c'est l'image de votre expérience ou c'est la caractéristique, je dirais, introductive à ce roman?
C'est les deux. C'est introductif au roman, bien sûr, mais aussi c'est par rapport à ma vie. Moi, je suis fonceur, créatif, je pense être créatif, et optimiste. Donc je veux toujours aller de l'avant. Et donc c'est pour ça que je me refuse de refuser quelque chose, de me contraindre.
Alors, ce roman... On parlait tout à l'heure de la manière dont vous venez les idées, les personnages. Ici, dans ce cas, qu'est-ce qui vous a décidé à débuter? On a bien compris qu'une fois vous avez débuté, ensuite la machine est en marche, quitte à ce qu'elle ait quelques petites pannes. Mais au début du début, pour cette histoire, comment ça s'est passé?
Ah, c'est très simple. C'est une de mes élèves qui était une des élèves, maintenant elle n'est plus à Toulouse, qui est une personnalité attachante, pas mal d'aspects, qui a quand même souffert dans sa vie, et qui était hôtesse de l'air, dans son métier, auparavant. Et compte tenu de sa personnalité, je me suis dit, tiens, je vais faire un roman sur toi. D'abord, elle a pris peur. Oh là 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 là, où vais-je ? Et je suis parti comme ça, donc hôtesse de l'air, personnalité assez complexe, qui a souffert dans sa vie, je suis parti là-dessus, et c'est comme ça que je suis parti. Donc, à l'adresse de l'air, l'avion tombe dans la jungle, etc. Et le truc est parti. Et les thèmes, après, sont venus tout seuls.
Alors, on peut, parmi ces thèmes, remarquer qu'il y a le destin, la fatalité, le hasard, le choix de vie, le rôle de la nature, les progrès de la science, les cultures locales, et, je dirais, le rôle pivot, à vos yeux, de l'écologie ou de l'équilibre écologique, global de la planète. Donc, vous avez englobé tous ces sujets, et donc vous avez construit ce roman. Vous avez mis des personnages, donc le personnage principal, un des deux personnages principaux, c'est Léa.
Léa, oui.
Alors Léa, comment vous la décriviez?
C'est quelqu'un de tourmenté, parce que c'est quelqu'un qui a perdu son amour de jeunesse. Parce que le vrai terme du roman, qui apparaît au fil de l'écriture, c'est que votre amour de jeunesse vous hante toute votre vie. C'est ça le vrai thème, en fait. Après, tout le reste, c'est des personnages, c'est une intrigue pour mettre ce thème en valeur. Parce que c'est ça un roman. Un romancier, c'est quelqu'un qui va parler d'un sujet et qui va trouver des situations pour que ce sujet soit exacerbé dans ces situations.
Et est-ce qu'autour de ce thème central, on peut y rajouter le symbolisme de Roméo et Juliette?
Oui, tout à fait, l'amour, l'amour interdit, quoi, l'amour difficile, mais l'amour, le grand amour, oui. Alors après, Léa, c'est quelqu'un que je connais, donc c'est quelqu'un qui a eu des difficultés dans la vie. Je ne dirais pas ce qu'elle a exactement, parce qu'elle a une maladie en plus. Hein. Parce qu'elle va se reconnaître sinon. Non, les autres vont la reconnaître plutôt. Hein. Et elle est à la fois enthousiaste, optimiste, etc. Mais elle a un gros poids sur elle. C'est cette histoire de cet amour de jeunesse qui a disparu d'un seul coup. Et sans que personne ne sache où il est. Voilà. Qu'est-ce qu'il est devenu? Est-il mort? Est-il pas mort? Etc. Et ça va le hanter toute sa vie. Et donc toute sa vie, elle va rechercher cet amour de jeunesse, à tel point qu'elle va tomber amoureuse, ou elle va voir que des amants qui ressemblent à cet amour de jeunesse.
Cet amour de jeunesse dont vous dites qu'il il a le portrait robot de Tom Cruise.
Oui. Oui, parce que, alors ça c'est un artifice, parce que au lieu de décrire, moi j'aime pas trop les romanciers qui mettent des tartines pour décrire quelqu'un, je vais à la facilité, je dis il ressemble à telle personne, donc le lecteur tout de suite voit son visage. Et, bon, c'est une facilité, je l'avoue, mais ça évite de partir dans des descriptions qui quelquefois ennuient le lecteur. Et qui sont quelques souvent pleines de clichés et répétitives.
Donc, effectivement, à la lecture, on saisit facilement le profil. Voilà. Alors là, nous sommes partis rapidement avec le personnage principal qui est Léa. Est-ce que vous pouvez situer un petit peu le contexte du roman pour que nos auditeurs puissent avoir une idée des circonstances, sans évidemment en dire trop?
Oui, donc elle est hôtesse de l'air dans un avion. L'avion traverse une tempête pas possible au-dessus des îles Moluques en Indonésie. Et l'avion se casse en deux, et elle tombe de l'avion. Et par chance, elle atterrit dans la jungle, et un arbre amortit sa chute. Et elle se retrouve à moitié nue, attachée sur son fauteuil, en plein milieu de la jungle indonésienne. Et là, premier réflexe, elle commence à prendre peur, à dire « mais qu'est-ce qui m'arrive ?» etc. Puis elle se dit quand même « j'ai quand même énormément de chance de survivre à ça. Dieu ne va pas me condamner au prochain virage. Donc j'ai quand même un peu de chance de m'en sortir. » Mais elle a quand même toujours peur. Donc elle part dans la jungle, elle rencontre des animaux sauvages, etc. Et puis, elle va tomber sur un ermite qui se dit américain, bien qu'il parle bien le français, d'ailleurs, et qui se dit, moi j'ai quitté la civilisation depuis 3 ans, je vis dans la forêt, et d'ailleurs il se débrouille très bien, puisqu'il arrive à vivre, à se nourrir, à chasser, etc. Et donc, au début, elle se dit, voilà, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je ne vais pas devenir l'objet sexuel de cet ermite, etc. Il va me garder, il va me... Et puis, ce qui devait arriver, arrive. Donc, en fait, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Hein. Et puis, cet ermite, finalement, il est totalement civilisé. C'est pas une brute. Hein. Et va se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste tous les deux dans la jungle, tels des aventuriers, ou est-ce qu'on retourne à la civilisation? Pour prendre la décision, ils vont s'adresser aux augures, hein, c'est-à-dire qu'ils vont tuer un animal, un oiseau, pour savoir ce qu'il faut faire. Et donc, après pas mal de discussions et après cet augure, ben, ils décident de partir rejoindre la civilisation. Et là, il se passe de tout un tas de choses.
Alors, on va y revenir au sujet des augures. En lisant le livre et, je dirais, l'atterrissage brutal de Léa dans la jungle, alors on se dit, dans un premier temps, elle a beaucoup de chance, hein, c'est évident. Et ensuite, c'est quand même un personnage qui prend beaucoup de distance, parce qu'elle arrive dans cet endroit, elle a en permanence une prise de distance, elle analyse les choses, et finalement, elle ne se demande pas.
Non, mais ça, elle me ressemble.
Voilà, on a vraiment l'impression en disant, bon, mais probablement qu'elle serait tombée en pleine mer, elle aurait trouvé un certain nombre d'artifices pour dire, bon, mais finalement, je vais m'arranger, je vais m'adapter.
Et... Oui, mais c'est vrai, elle est comme ça, mais elle met... Enfin, ce que j'ai essayé de faire, c'est qu'elle passe d'un état où elle dit ben, « c'est pas possible, je vais survivre », etc., à quand même des angoisses importantes. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a des situations où elle frôle la mort, hein. Il y a des situations où c'est très difficile pour elle, mais c'est toujours l'optimiste qui arrive à ça.
Alors, tout à fait. Et ça, c'est très fort, parce qu'effectivement, même quand elle a des symptômes physiques de mal à l'estomac, etc., etc., elle prend du recul par rapport à ça en disant, voyons, il faut aller de l'avant. Et donc, page 25, vous lui faites dire, à chaque réveil, mon cerveau doit recommencer un effort particulier pour recoller les morceaux. Et effectivement, elle recolle les morceaux systématiquement, alors qu'elle est vraiment dans une situation périlleuse.
Très difficile, hein, tout à fait. Oui, ouais. C'est vrai qu'elle est très cartésienne, mais pas que.
Voilà. Donc,
elle a aussi beaucoup d'émotions.
C'est sûr. Et donc, derrière ce cartésianisme, on retrouve celui du scientifique que vous êtes.
Oui, et puis elle se cache aussi. Vu le drame qu'elle a eu pendant son enfance, son adolescence, son premier amour qui est parti, qui a disparu, elle est un peu blindée. Elle était obligée, pour survivre, de se blinder et d'être assez analytique. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de moi-même aussi dans ce personnage, c'est évident. De toute façon... Il y a toujours un peu de biographie dans un roman, hein. Toujours, toujours.
C'est pour ça qu'il est intéressant de connaître un peu l'auteur en préalable à une lecture. C'est quelqu'un qui a de la volonté, et c'est en même temps quelqu'un qui, face à sa problématique d'adolescente, qu'elle a connue à l'adolescence, On la sent dans le texte, des fois, d'aller de droite à gauche, hein, un peu à l'ouest, et ce qui est en totale rupture avec sa manière de réagir face à l'adversité, je dirais, pratico-pratique.
Oui, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que si je suis arrivé à faire ça, j'en suis fort heureux, parce que je voulais faire un personnage complexe, effectivement. Donc un personnage qui est à la fois fort, mais qui a aussi des faiblesses, qui quelquefois... s'égare un peu n'importe où, hein, et revient toujours au cartésianisme. Oui.
Voilà. Alors c'est ça aussi, et là je vous livre ma réflexion en tant que lecteur, effectivement, c'est que bon, à la fois on voit une hôtesse de l'air qui tombe dans la jungle et qui s'en sort, on la sent perturbée, on la sent qui s'adapte, donc il y a tous les ingrédients, dès le départ on se dit, où est-ce qu'elle va nous mener celle-là? Là c'est assez prenant.
Et c'est après, c'est le hasard des rencontres qui, voilà. qui vont guider le chemin. Elle vient du ciel, elle descend du ciel, et après, c'est le hasard des rencontres qui va guider son chemin.
Voilà, donc, et donc sa problématique et la douleur qu'elle porte en elle, depuis l'adolescence, est liée à la séparation. Alors, on n'en dira pas plus pour ne pas gâcher le roman. Donc, cette séparation qui est très, très lourde et qui, je dirais, transparaît pendant tout le roman.
Oui, tout à fait. Voilà. C'est le leitmotiv du roman.
Exactement. Et donc, à propos de séparation, nous allons écouter la chanson d'Alain Barrière, « Tu t'en vas ».
D'auteur. Philippe Gilbert.
Tu t'en vas, d'Alain Barrière. Souvenir pour une certaine génération, c'est peut-être moins évident pour les générations actuelles. Ce chanteur a complètement disparu des radios.
C'est vrai. Mais c'est une chanson que j'adore. Et qui a encore un rapport avec le roman. Hein.
Et
tu t'en vas.
Et qui...
Tu es parti.
Voilà. Je vous rappelle que nous sommes toujours en compagnie de Gérard Muller pour son ouvrage « Sous les chemins de vie, tous les chemins de vie descendent du ciel » paru en 2023 aux éditions Le Lys Bleu. Alors nous avons vu Léa, qui est donc l'hôtesse de l'air qui tombe du ciel. Et il y a l'ermite. Alors l'ermite, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, sachant, pour faire un petit peu monter le suspense vis-à-vis de nos auditeurs, que derrière l'ermite, il y a beaucoup de choses qui sont déterminantes dans la compréhension de ce roman. Alors qu'est-ce que vous pouvez en dire sans trop dévoiler de choses?
Alors, lorsqu'il rencontre Léa, Mike, on l'appelle Mike, hein. Il se prétend américain et il dit qu'il a quitté la civilisation pour rejoindre la forêt pour vivre comme un ermite dans la forêt, de chasse et de cueillette, hein, pour des raisons écologiques. En fait, c'est pas, on va s'apercevoir que c'est pas du tout ça. En fait, c'est un baroudeur. Hein. Est-il là par hasard ou pas? Il faut lire le bouquin pour le savoir. Hein. C'est un baroudeur qui a eu plusieurs vies. Plusieurs vies. Notamment qui a fait du trafic d'armes, qui a fait de l'espionnage, des trucs plus ou moins honnêtes, qui a travaillé pour, aussi pour les Russes, etc. Donc au fil du livre, on apprend à chaque fois, à chaque chapitre, quelque chose de plus sur ce personnage qui le rend de plus en plus complexe en Italie. La vie. Tant et si bien qu'on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui est-il réellement. S'appelle-t-il d'ailleurs Mike? On n'en sait rien. Est-il américain? On n'en sait rien, etc. Et plus le roman avance, plus le personnage est complexe, enfin sa vie est complexe, et moins on sait de choses sur lui. Enfin, on sait beaucoup de choses, mais elles ne sont pas cohérentes.
Alors, à cet égard, on peut dire que vous travaillez bien le lecteur, parce que presque systématiquement, à la fin de chaque chapitre, il y a comme, je dirais de votre part, un petit état des lieux de la situation, où on en est, avec beaucoup de points d'interrogation qui mettent le lecteur, qui tiennent le lecteur en éveil en disant « Oui, effectivement, pourquoi si, pourquoi ça, qu'est-ce qui se passe, etc. » Et ça, je pense que c'est une technique délibérée que vous avez employée.
Oui, tout à fait, c'est totalement délibéré. Et, d'abord, c'est une technique qui s'apprend au polar, parce que... Et j'ai toujours à mes élèves, à la fin, un chapitre, ça doit être un tout, un chapitre, un sujet, et à la fin de votre chapitre, vous fermez la fenêtre, et vous fermez la porte, pardon, et vous ouvrez une fenêtre. C'est ça l'astuce.
Voilà. Et c'est cet appel d'air qui fait que ce roman... On ne peut pas le lire en plusieurs fois. On est forcé d'aller jusqu'au bout.
Ben j'en suis fort heureux.
Donc je voulais insister vis-à-vis des auditeurs, effectivement, sur cette méthode que vous employez. Effectivement, on est vraiment aspiré vers le chapitre suivant.
Oui, mais ça s'apprend dans les ateliers d'écriture, ce qu'on appelle les page turners en français. Tourner la page, c'est-à-dire qu'on est happé et on veut continuer. Hein. Bon, et ça, c'est des techniques. Hein. C'est-à-dire qu'il faut, encore une fois, fermer la porte ou ouvrir la fenêtre. Et ouvrir la fenêtre, ben, chaque lecteur va pouvoir imaginer ce qu'il y a à travers la fenêtre.
Alors, nous n'allons pas aller plus en avant dans l'intrigue elle-même. Comme vous le disiez en début d'émission, le fait d'écrire vous permet de développer des thèmes qui vous tiennent à cœur. Alors, vous développez ici, notamment, mais pas exclusivement, la notion de destin qui fait dire à Léa, je vous cite, « Ce serait se moquer du destin qui, par le biais de cette aventure, a dû me confier une mission. J'ai une dette envers lui. » Est-ce que c'est quelque chose que vous appropriez vous-même, c'est-à-dire vous avez bénéficié d'un certain nombre de choses dans la vie et donc quelque part vous vous sentez redevable?
Bien sûr, totalement. Et d'ailleurs il y a une résonance avec la chrétienté. Hein. On est redevable, alors pour les chrétiens d'un dieu, etc. Pour les autres, moi je suis... mi-athée, mi-croyant, hein. On est redevable de tout ce qui nous arrive. Hein. On a une responsabilité sur Terre.
Alors cette responsabilité s'étend dans le domaine de ce qu'on pourrait qualifier l'équilibre entre l'homme et la nature, et en particulier dans votre roman... À un moment du roman, vous évoquez les hommes de Florès.
Oui.
Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces hommes de Florès?
Alors, l'homme de Florès, c'est un homme inidé qui a vécu notamment dans ces contrées indonésiennes Il y a, j'ai de mémoire, je ne m'en rappelle plus, mais il y a 300 000 ans, quelque chose comme ça, c'est un hominidé qui était tout petit, qui mesurait 1m20. Hein, et donc ce sont des, c'est des migrations venant d'Afrique, hein, parce que tout est parti d'Afrique. Ils sont arrivés en Indonésie. Et compte tenu du régime alimentaire, compte tenu du climat, ben, ils sont rapetissés pour être, avoir une taille optimale, compte tenu de l'environnement, qui était 1m20. Et c'était une vraie civilisation qui a complètement disparu. Complètement disparu. Mais on a retrouvé des squelettes, on a retrouvé des choses. Hein. Et on a retrouvé leur généalogie hein, par rapport à toute la descendance des hominidés.
Donc, comme dans ce roman, on parle, vous parlez de la forêt, de son rôle. On a dit tout à l'heure que vous aviez publié un livre sur la, une forêt qui s'appelle Dentry et qui est ce que vous qualifiez comme étant la, la forêt intelligente. Et vous, vous caractérisez la forêt comme étant, je dirais, un écosystème ou simplement un système. Vous dites le cycle éternel de cette nature qui se régénère sans cesse sans conserver le moindre déchet et qui se nourrit de la mort des éléments vivants. Est-ce que c'est un modèle et est-ce que c'est quelque chose dont on doit tenir compte bien de sûr. Manière impérative?
Bien sûr. Quand vous pensez au nombre de déchets de poubelles que fait l'humanité, vous tournez vers la nature, elle ne fait aucun déchet, elle recycle tout. Tout resserre. Tout. Il y a une continuité, il y a un cercle continu qui fait que de la mort naît la vie. Hein. Et dans mon roman Dentry, d'ailleurs, un des personnages, c'est une vieille souche de cette forêt, qui est le sage de la forêt, et qui a plusieurs milliers d'années, cette vieille souche, mais qui continue, qu'on croit morte, mais qui continue à vivre, parce qu'elle est alimentée par tous les arbres alentour, qui lui donne un peu de sève pour qu'elle continue à vivre. Et en fait, c'est le sage de la forêt. Et donc, effectivement, j'avais jamais réfléchi au fait qu'il y ait une résonance entre les deux livres, entre ce livre-là qui se passe vite dans une forêt, et Dentry, où, effectivement, les animaux, la vie animale et la vie végétale, est un tout inséparable. Il n'y a pas d'un côté les animaux et les végétaux. Et puis là, l'homme dedans est un animal aussi, comme les autres.
Et donc, au-delà du thème de la séparation, qui est donc le thème central de votre ouvrage, il y a cette référence à la nature, et vous écrivez « Écoutez la leçon des arbres, dont la sagesse leur permet de vivre dans une sérénité que nous n'avons plus. » Donc, à ce titre-là, il serait bon de s'inspirer des arbres.
Tout à fait.
De les écouter.
Oui, de les écouter, de les embrasser. Vous savez qu'il y a des gens qui sont très proches de la nature qui commencent à embrasser les arbres. Et puis nos civilisations, regardez les aborigènes ou les Indiens d'Amérique centrale, ils ont une communion avec les arbres notamment. Totalement formidable. Hein, pour eux, ce sont des êtres vivants au même titre qu'eux. Quoi.
Donc c'est effectivement sur ce thème, sur ce sujet que l'on peut conclure, effectivement. Mais au-delà de ça, je voudrais rajouter à nos auditeurs que, au-delà de la maîtrise du suspense, on peut voir dans vos écrits et dans votre écrit précisément, Gérard Müller, le soin apporté à l'orthographe et à la ponctuation.
Tout à fait.
Ça, on sent a priori que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, parce que vous soignez bien les songège, parlège, et au niveau de la ponctuation, on sent la structure. Mais je crois que vous êtes un ardent défenseur de la ponctuation.
Ah oui, oui, oui. Je suis. Mes élèves, d'ailleurs, le savent. Hein. C'est-à-dire que je suis intraitable sur la ponctuation. Parce qu'à une seule virgule, on peut changer la compréhension d'une phrase. Hein. C'est très important, la ponctuation. Encore plus important que l'orthographe.
Donc je recommande, alors à plusieurs titres, aux auditeurs ce livre, mais un des arguments, c'est la ponctuation, effectivement, et le style. Gérard Muller, mille fois merci d'être venu à Parole d'auteur.
Et merci Philippe.
Je rappelle que votre ouvrage « Sous les chemins de vie, tous les chemins de vie, descendent du ciel » est paru en 2023 aux éditions Le Lys Bleu. Merci aux auditeurs pour leur fidélité. Merci à Christophe Aubry, à la technique.